Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi podcast season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Anna Sanna et Delphine Baldé. Bonjour Anna et Delphine et bienvenue dans Comme d'Archi.
Merci.
Merci.
Bonjour.
Vous êtes architecte designer pour l'une, architecte urbaniste pour l'autre et à la tête de votre studio, Sanna Baldé. On l'a deviné, vous couvrez toutes les échelles du design au territoire, en passant bien sûr par l'intérieur et l'architecture tout court. Vous venez toutes deux d'importantes agences, Ferrier et Leclerc Associés, où vous aviez des postes à responsabilité. Votre amour de la danse vous a réuni et vous a conduit à explorer le rapport entre l'espace, le corps et la ville. Vous êtes des femmes d'engagement qui n'hésitent pas à transmettre, vous allez nous préciser tout ça. Et on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelles ont été vos jeunesses respectives? Où se sont ancrées vos envies d'architecture? Quelles ont été vos études? On commence par Delphine.
Alors, j'ai un parcours relativement classique dans la mesure où j'ai fait des études d'architecture après avoir passé mon bac. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage avec un architecte quand j'étais au lycée. Et finalement, j'avais des envies très différentes. Soit je voulais être ingénieur du son, femme chef d'orchestre, ou architecte. Et à un moment donné, je m'étais dit pourquoi pas avocate. Mais j'avais fait un stage où ça ne m'avait pas semblé assez créatif. Et assez rapidement, j'ai commencé à m'intéresser à Tadao Ando, à l'architecture japonaise, plus jeune. Je n'étais pas du tout dans un milieu d'architecte. Hein. Mes parents n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. Et moi, je faisais le lien avec l'architecture à travers la musique. J'ai fait beaucoup de musique, de nombreuses années au conservatoire.
Avec un instrument ou
j'ai
plusieurs.
Fait 10 ans de piano.
Oui.
Au conservatoire, et puis après j'ai fait de la batterie. Et cette notion de rythme, cette notion un peu d'univers particulier, finalement m'a conduit vers l'architecture. Et là, les études d'architecture, j'ai trouvé ça génial.
Et tout ça, ça se passait à Paris ?
Ça se passe à Versailles.
À Versailles.
J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi en ville nouvelle, à Cergy-Pontoise. Et j'ai un amour un peu particulier, enfin vraiment j'ai un attachement. Et j'ai grandi entre, mes parents étaient séparés, j'ai grandi entre Paris, 20e arrondissement, près des Buttes-Chaumont, et la ville nouvelle. Et finalement c'était un lien entre la ville et la campagne. Parce que la ville nouvelle, c'était la possibilité le week-end d'aller se balader dans les champs. Et donc, et d'une ville qui est en pleine construction. Et je pense que ça m'a nourrie et ça m'a donné ces envies d'architecture.
Anna.
Alors, mon parcours, oui, plutôt classique comme Delphine, mais je suis italienne, comme vous pouvez l'entendre. Donc, j'ai grandi en Sardaigne. Ma ville natale s'appelle Cagliari. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à 18 ans. J'avais pas une idée précise quand j'ai décidé de faire des études d'architecture. J'avais pas une idée précise de ce que après l'architecture m'a vraiment révélé. J'ai décidé de me lancer. J'ai trouvé que c'était intéressant que découvrir les villes, faire des bâtiments, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, j'ai décidé d'aller vivre à Rome, où j'ai fait mes études.
Sapienza, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et avant, j'ai une vie plutôt... en Sardaigne, on vit plutôt bien. J'étais toujours à la mer. J'ai toujours fait de la danse depuis que je suis petite. Et du coup, cette passion elle est toujours en moi depuis longtemps. Après, c'était une danse, c'était plutôt de la gymnastique rythmique qui après s'est développée en danse. Et je me suis de plus en plus passionnée vers la danse contemporaine et les chorégraphes contemporains. À Rome, j'ai fait mes études d'architecture et après, j'ai passé un an à Versailles où j'avais commencé à connaître Delphine. Et après, les différentes étapes, disons que je suis revenue après mon diplôme à travailler à Paris. Et après, je suis encore repartie parce que je n'étais pas sûre de ma ville, que Paris me plaisait vraiment. Et je suis allée habiter au Caire pendant 5 mois. J'ai travaillé pour une association qui m'a permis de découvrir une autre façon, une autre approche à l'architecture. C'était la rénovation du vieux Caire. Mais le vieux Caire, vraiment le souk, la partie pauvre dans laquelle voilà, il y avait tout à faire et donner des nouveaux habitations aux habitants. Et ce côté m'a plu, mais ce n'était pas vraiment l'envie que j'avais de l'architecture. Et du coup, j'ai décidé de revenir à Paris.
Bon.
Heureusement.
Donc, c'est une association qui marche bien.
Tout à fait. Oui, je pense qu'avec avec Anna, effectivement, on est ce couple professionnel qui se complète et qui, justement, vient d'univers différents, mais dans lequel on a une culture, une sorte de biculture, comme ça, toutes les deux, moi avec mes origines guinéennes et Anna, plus italienne. Et finalement, il y a cette richesse un peu plurielle dans nos envies de faire, nos envies de découvrir, de parler. Cette question de la diversité, je pense qu'elle est importante pour nous deux. Et elle est aussi dans l'écoute, dans la manière dont on construit les choses ensemble.
Avec quand même un fil conducteur qui vous réunit, qui est l'expression artistique.
Oui, tout à fait. Ouais. Et qui était nécessaire, c'est-à-dire qu'on a toutes les deux un héritage. Ouais. On a travaillé pendant longtemps, Anna avec Jacques Ferrier, moi avec François Leclerc. Et c'est ce pas de côté, cette manière d'aller chercher un domaine qui est différent, celui de la danse contemporaine. Et qui oblige aussi à un effort, c'est-à-dire que c'est pas, il faut que ça soit, faut que ça se concrétise, il faut que c'est un récit, mais qui doit se dérouler, c'est-à-dire c'est de la recherche en fait en soi, qui est pas évidente, on pourrait très bien faire de l'architecture sans en faire. Mmh. Et cette décision qu'on a prise toutes les deux assez rapidement, on s'est dit oui, on a besoin de ça pour alimenter notre propre écriture et que ça soit pas juste une juxtaposition d'expériences.
Mmh. Et aujourd'hui, on essaye effectivement, parce que depuis notre début, on a commencé à parler de cette idée que c'est un peu la danse, c'est un fil rouge qui lie nos expertises. Donc, dans mon côté, j'ai développé des projets d'architecture beaucoup plus dans toutes mes expériences de design et Delphine plutôt des projets d'urbain. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est justement de travailler ensemble pour faire des projets ensemble, à n'importe quelle échelle. Donc, pas dire qu'aujourd'hui, on a une agence qui, Delphine, elle est dédiée à l'urbain et moi, je suis dédiée à l'archi. Aujourd'hui, tous les projets sont discutés entre nous. Et aujourd'hui, cette idée des fils rouges que la danse nous accompagne dans nos projets, comme un outil de recherche et un outil pour découvrir l'espace et l'architecture, on veut le mettre en place. C'est quelque chose qui prend un peu de temps parce qu'on a d'un côté une agence à développer avec tous les projets et de l'autre côté aussi essayer de raconter des choses qui nous inspirent, des choses qui nous guident. Et aujourd'hui, on essaie de... Il y a un projet que je ne vais pas tout à fait vous dévoiler parce qu'il faut qu'encore on y travaille, mais on essaye avec une mère...
Très engagé,
qui nous a aidé mettre en pratique ce projet, justement dans l'espace public, d'un projet urbain qu'on développe.
Voilà. D'accord. Vous avez le temps de danser, toujours ?
Oui, c'est...
C'est secret, vous pouvez en parler un peu?
Non, pas du tout. Anna, moi, tu peux peut-être...
Oui, moi, j'ai fait de la danse une fois par semaine, parce que le temps dans le week-end, mais on continue à danser et on continue aussi, une chose qui nous nourrit beaucoup, c'est Paris nous permet d'aller voir des très beaux spectacles et du coup d'essayer de rencontrer des chorégraphes et aussi de voir des spectacles, des chorégraphes qui nous inspirent. Delphine était à Chaillot hier soir.
Voilà. Mais non, c'est vrai que cette question de la pratique, en fait, c'est important. Et puis c'est aussi une question d'équilibre pour nous, mais parce que l'architecture, c'est un travail exigeant. Et je pense que quand on... Il y a un point aussi important dans cette approche, dans cette manière de mettre la danse autour de la table, c'est aussi que c'est lié pour nous à une question d'engagement politique, dans la mesure où on considère que notre agence, on l'a faite aussi à cette visée d'engagement politique, et notamment sur une question du genre dans la ville, et donc du rapport de la place de la femme à travers cet outil, qui est en fait un outil qui est accessible un peu à tous, notamment parce qu'on considère que la première étape de la danse, c'est la marche. Et c'est notamment Kirsmaker qui le prône et donc qui rend ça accessible à une femme âgée qui ne peut plus courir, à des gens qui ne maîtrisent pas le français. Voilà, en fait, ce caractère un peu très inclusif que peut représenter finalement la danse, c'est-à-dire que c'est une expression corporelle qu'on peut avoir. D'ailleurs, les enfants le font beaucoup plus naturellement que nous. Et cette question de libérer un peu nos corps dans la ville. Et d'ailleurs, c'est valable à toutes les échelles. Ça peut autant être sur une question de vous, quand vous êtes assis sur ce siège, comment vous vous sentez. Et puis, quand on passe dans la ville en vélo, donc quelle que soit la vitesse, est-ce qu'on est bien dans son corps ou pas? Et de prendre ça en compte, nous, tous les jours, dans notre quotidien professionnel.
Et aujourd'hui, cette question, par exemple, dans les cours d'école, ils ont déjà expérimenté cet outil. La cour d'école, aujourd'hui, il y a un vrai problème d'inclusivité parce qu'elle est occupée beaucoup par les garçons qui prennent beaucoup de place avec le football et voilà, les jeux un peu plus, entre guillemets, que des fois les filles ne se permettent pas. Et ils ont expérimenté l'idée de faire danser les enfants. Et du coup, ça a montré que tout le monde a y participé et tout le monde a pris la place dans la cour. Et du coup, il y a eu un rééquilibrage de l'utilisation de l'espace. C'est un peu dans cette même façon que voilà, l'inclusivité et l'appropriation du coup, de l'espace public de la part des habitants deviennent plus inclusifs.
Alors peut-être qu'avec les nouvelles mobilités, entre guillemets, on va en reparler. Je vous arrête là parce que j'ai une question récurrente dans le programme comme d'Archie, qui est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? On sent une maturité, un épanouissement. Voilà, vous êtes passé par des grosses agences. Est-ce qu'au départ, vous projetiez ce genre de parcours ou...
Alors... Je pense qu'au fond, on a depuis longtemps cette envie un jour d'avoir une expérience propre, celle de créer notre agence. Mais au fond, moi, je n'avais pas forcément de schéma préconçu, mais en tout cas, j'avais l'envie clairement d'aller vers l'urbanisme, d'être dans un milieu parisien qui se questionnait, qui était aussi assez lié à la recherche. Et en même temps, j'ai un peu une sorte de mantra qui est il s'agit d'être là où on ne nous attend pas. Dans l'idée que, en fait, parfois c'est bien d'être un peu inconfortable pour essayer de réagir différemment. Donc, en même temps, je trouve que s'ancrer pendant assez longtemps, ce que j'ai moi en tout cas fait, et Anna aussi, pendant plus de 10 ans dans une agence, c'est aussi avoir une continuité, prendre le temps. Enfin, il y a ce mélange de savoir à la fois prendre son temps. D'ailleurs, c'était un peu le spectacle de danse que j'ai pu voir hier. C'était ça, c'est-à-dire cette variation de rythme. Il y a des moments où on accélère, des moments où on se bouscule, et c'est un peu ce qu'on a fait il y a 3 ans en créant notre agence. Et puis d'autres moments où, en fait, c'est-à-dire se dire qu'il y a des choses qui sont accomplies. En tout cas, ce qui était sûr pour moi, c'est qu'il y avait une passion, un plaisir de faire, un plaisir d'être dans la ville, d'y réfléchir, de discuter avec les habitants que j'avais quand j'étais à l'école, et ça ne m'a pas quitté. Donc, accompli. En tout cas, il n'y a pas l'envie de grande... Moi, je n'ai jamais eu d'idées comme ça.
Des ambitions démesurées avec une agence de 400 employés.
Oui, voilà. Oui, parce que... Mais plutôt cette manière un peu agile, un peu souple de faire les choses et de rencontrer des gens, en fait. Et cette envie-là, moi, elle est plutôt même encore plus forte parce que je le fais maintenant avec Anna, donc je trouve ça génial.
Mmh. Anna ?
Alors, moi aussi, comme je partage voilà, le point de vue des Delphines, quand j'avais pas une idée prédéfinie de mon parcours, et même, je pense que pour longtemps, j'ai un peu cherché le fait de voyager, d'aller retourner en Italie, après aller ailleurs. J'ai eu toujours, et moi, une grande curiosité. Du coup, effectivement, ce que l'école m'a appris, après, j'avais encore besoin, c'était pas suffisant presque. Et du coup, il y a eu un mois toujours une envie de recherche, de rencontrer des gens et de trouver le bon chemin. Voilà. Après, disons que je trouve que l'envie aussi avec Delphine, on a trouvé. On travaille avec ce que j'aime dans mon métier, ça m'amuse, je m'amuse. Et ça, c'est, pour moi, c'est important de toujours voilà, avoir des défis et en même temps de le faire avec peut-être aussi une certaine simplicité et légèreté. Et voilà. Et je trouve qu'on a trouvé ce bon feeling et cette bonne intention.
Je trouve que quand on va sur votre site, il y a un excellent reflet de ce que vous venez de dire. On a l'impression que c'est calme, voilà, qu'il y a une concentration. Et c'est agréable. Voilà. On n'est pas dans une course à l'armement. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez raconter l'histoire de vos projets, même si l'agence est encore toute jeune, à l'échelle des projets d'architecture ? Alors, vous avez eu déjà des bons tremplins. Je connais moins l'agence Ferrier, mais... Le Clair Associé, c'est un réseau d'architectes incroyable, avec un accompagnement, finalement, une manière de peut-être d'accepter que le jeune architecte, si brillant soit-il, va partir un jour. Et du coup, c'est un peu ce que je comprends. On va comprendre ça et l'accompagner. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est effectivement un peu une spécificité de, je pense, de François Leclerc sur cette capacité de d'être une sorte de passerelle, enfin de conduire comme ça, d'accompagner de manière assez, je l'ai dit assez justement, et puis dans une espèce de, oui, une sorte de club d'anciens que peut compter l'agence.
Puis même il y a des échos après, entre vos activités respectives.
Ouais.
C'est un peu comme une grande famille.
Oui, c'est vrai. Il y a en fait ce caractère. Assez ouvert et où chacun peut avoir un peu sa place et des profils aussi très différents parce que finalement il y a des agences aussi assez variées qui se sont créées à la suite de leur expérience dans cette agence. Mais je pense que en tout cas dans nos envies aujourd'hui, dans les projets qu'on a la chance de développer, soit c'était aussi dans la lignée finalement de ce qu'on a pu faire. On a eu la chance aussi d'être sollicité par d'anciens maîtres d'ouvrage. Donc il y avait c'est assez agréable aussi cette notion de confiance et de pouvoir en fait prolonger et de ne pas être juste associé finalement à une grande agence. Et en même temps, il y a la chance qu'on a eue, parce que ça c'était vraiment aussi l'envie, sur cette question un peu du meuble à la ville. On a réussi, dès le démarrage de l'agence, à avoir un projet de design qui n'est pas très loin, qui est sur Gand Central, qui est donc un aménagement intérieur du mobilier. Ça se fait vite et en même temps, il y a quelque chose d'assez agréable dans cette réflexion sur le confort, ce rapport au corps justement qu'on a pu avoir, dans lequel on a associé du paysage. Donc en fait, il y a cette notion un peu inattendue du paysage dans un meuble qu'on a pu développer. Et puis après, des équipements assez variés, c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui, on a un programme de logement. Et tout ça, ça vient s'inscrire dans des histoires un peu plurielles. C'est-à-dire qu'on fait un programme de logement dans un projet urbain plus large sur lequel j'ai eu la chance de travailler, à Châtenay-Malabry, avec Eiffage Aménagement, Eiffage Immobilier. On travaille aussi avec des maîtres d'ouvrage publics. Mmh. On fait effectivement du renouvellement urbain à Chanteloup-les-Vignes avec justement une maire, Catherine Arnoux, très engagée. Ça, c'est aussi assez excitant pour nous. C'est-à-dire qu'on a démarré l'agence et avec une élue qui est très...
Qui bouge les lignes.
Oui, et puis qui était à l'écoute, qui nous a fait confiance. Et ce duo, il est, quand ça fonctionne, c'est assez magique.
Oui. Et en plus, il nous fait confiance pour énormément de projets. Il nous a donné une mission complémentaire et c'est assez... On retrouve vraiment la même échelle qu'on a découvert pendant nos 13-15 ans chez Ferrier, chez Leclerc. Je trouve que nous, l'idée, quand on est passé dans une grosse agence comme ça, l'idée c'était de pouvoir attendre les mêmes types de projets. Et au final, en un temps assez réduit, on est arrivé. Et on est très content de retrouver et de pouvoir avoir le même engagement et pas avoir fait presque un saut en arrière, entre guillemets. Aujourd'hui, effectivement, comme Delphine disait, on a ce projet à Chanteloup-les-Vignes, après un projet urbain et un autre à Nanterre, un peu sous la même question du renouvellement urbain.
Avec les quartiers Émile Ayot,
oui,
donc on s'est aussi beaucoup intéressé à toute la production d'Émile Ayot.
Sur les tours, c'est ça?
Sur les tours, voilà. Donc,
et à Chanteloup, il y a des logements sociaux et il y a un quartier qui tout a été construit par Émile Ayot. Du coup, on a bien appris à connaître cet architecte qui avait et compris son sens de l'architecture qui, pour beaucoup de gens, pourrait être vu comme quelque chose de... imposant et un peu radical parce qu'il a fait des quartiers entiers. Du coup, c'est un peu difficile aujourd'hui de trouver cette mixité et cette nouvelle façon de l'intégrer dans la ville. Et c'est passionnant. C'est des sujets, on a la chance de travailler sur des sujets très passionnants. On fait aussi un projet pour la Fédération française des canoës et kayaks pour les Jeux Olympiques 2024.
À Vers-sur-Marne.
Oui, tout à fait, à Vers-sur-Marne. Un bâtiment, une structure mixte, bois-béton, et dans un lieu qui est assez magique, parce qu'on est à demi-heure de Paris, et quand on arrive, il y a un sens de paix et de nature qui est assez impressionnante, parce qu'on a un grand lac où il y aura lieu les Jeux. Et on a une maîtrise d'ouvrage incroyable et vraiment très sympa, avec qui nous font confiance.
Et qui sont les usagers.
Ouais.
Pas Solidéo là-dessus?
Non. C'est en fait directement la fédération. Donc en fait, ils vont être les utilisateurs directs. Il y a peu d'intermédiaires. Et donc c'est une sorte de projet un peu sur mesure qu'on leur fabrique. Et dans lequel il y a un point important... qui se retrouve dans de nombreux projets qu'on développe, c'est de faire avec le déjà-là dans cette sorte de manière un peu humble et parfois plutôt que de se dire que la contrainte devient un élément du projet. Mmh. Et là, c'est ce qu'on a fait sur ce site. On a gardé une topographie qui était là en se disant les autres réponses enlevaient cette butte, disaient que c'était un peu gênant, qu'il valait mieux faire un déblaire en blé éventuellement. Et là, nous, on s'est dit, on peut se poser dessus et on peut fabriquer comme ça une histoire qui est tournée vers le paysage et dans lequel on a réussi à convaincre la maîtrise d'ouvrage. Et je pense que ça, c'est aussi à chaque fois, dans de nombreux projets, c'est aussi ce qu'on fait sur les projets urbains. On dit, mais en fait, ce que vous avez là, déjà, c'est assez magique. Il y a plein de choses qui sont intéressantes et quand on parle d'Émile Ayot, par exemple, effectivement, là, pour les habitants, ils ont du mal à considérer que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors que, en fait, les logements, en l'occurrence, ceux qui sont faits, ils sont beaucoup plus généreux que ceux qui sont faits aujourd'hui par les promoteurs. Donc, cette question, en fait, de l'habitat, de la qualité de l'habitat...
Vous êtes sur... Pardon, je vous interromps. Sur les tours d'Ayot, vous êtes sur de la réhabilitation?
Non,
mais elles ne vont pas être rasées?
Non.
Et on ne s'occupe pas... Nous, on ne s'occupe pas de la réhabilitation des tours d'Ayot. C'est juste... On travaille sur le projet urbain et le schéma directeur du quartier dans lequel il y a les tours.
D'accord.
Que c'est un projet développé par Cogedim et dans lequel il y a un autre architecte.
Et les tours, plutôt que de les raser, en fait, ils vont faire un changement d'usage. Ouais. Il y a une tour qui va devenir un hôtel, donc il y a une mixité qui va se faire. Et,
ouais, c'est intéressant parce qu'elles sont quand même très particulières.
Oui,
exactement.
Avec les formes rondes, ouais. À l'intérieur, je crois que ce n'est pas forcément facile.
Oui, je pense qu'à aménager, il y a plus simple.
Oui. Mais à Chanteloup-de-les-Vignes, par exemple, les logements, oui, il a toujours ces formes un peu organiques, parce qu'il y a des immeubles un peu un rond, une ellipse, il y a une ellipse et tout ça. Mais là, les logements, par exemple, ils sont tous des logements traversants. Il y a des tailles qui sont légèrement plus grandes que ceux qu'on fait aujourd'hui. Voilà, du coup, il y a effectivement... Mais il y a un rapport à l'espace public et au pied de l'immeuble qu'il faut effectivement... ré-questionner, et c'est ça un peu notre objectif et ce qu'on met en place. Et c'est, voilà, avec aussi Atelier Roberta qui travaille, c'est des paysagistes qui ont gagné le projet d'aménagement des espaces publics suivant notre schéma directeur. Voilà.
D'accord. Et parmi ces projets, il y en a un, deux, trois plus emblématiques.
Je pense que la fédération, enfin le projet, le siège de la fédération de kayak, c'est oui un projet qui est celui qu'on va construire, le premier projet en bois. Après, on a construit le premier bâtiment qu'on a fait, c'est une chaufferie. Alors, quand vous me posez la question d'un bâtiment emblématique, je pense que effectivement, on pourrait se dire, c'est un musée, enfin quelque chose. Et alors avec Anna, on aime bien l'architecture très ordinaire. Et le fait d'avoir eu à traiter ce sujet d'une chaufferie qui est dans un quartier de logement et sur lequel on a dû effectivement se poser la question de comment on la rend plus domestique, comment...
Moins moche, tout simplement.
Exactement. Mmh. Et donc ce travail d'une architecture sur quelque chose qui est un peu rude, on trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc ce sorte de banal ordinaire qu'il faut savoir un peu apprivoiser et puis... réfléchir sur des matérialités, sur des notions de lumière, des notions aussi d'économie, de quelque chose, d'un bâtiment qui doit être aussi durable dans le temps et puis qui exprime aussi cette manière de chauffer durablement le quartier. Et ça, on aime bien.
C'est vrai. Et c'est aussi, je trouve, un défi. Parce qu'aujourd'hui, on a sorti tous nos systèmes de production de la ville. Et c'est dire comment... on décide de les réintégrer et de les intégrer avec nos bâtiments qui peuvent être des écoles, des logements ou des bureaux, les réintégrer dans la ville. C'est comme aujourd'hui on travaille avec pas mal aussi avec Sogaris, qui on aime bien comme maître d'ouvrage car ils essaient d'aborder vraiment cette question de comment réintégrer la logistique en ville. Et du coup, et faire aussi un objet architectural intéressant et pas une boîte qui est posée et qui n'a pas aucune interface avec le reste. Donc la question de tous les bâtiments, d'intégrer un bâtiment ordinaire en ville, c'est un sujet qu'on trouve assez passionnant. Après, moi, chez Jacques Ferrier, c'était un peu son début aussi. J'ai assez appris à faire ça parce qu'il a développé pas mal de bâtiments, des logistiques, des centres de maintenance pour des avions. Voilà. Et c'est des sujets que j'avais déjà un peu développés dans mon parcours d'avant. Mais cette question vraiment de l'ordinaire et faire un objet architectural, on trouve très intéressant.
Est-ce que vous avez une équipe ?
Oui, on a la chance d'avoir une super équipe. Oui, on a réussi heureusement à pouvoir développer une équipe qui est relativement jeune. Ils ont travaillé avant chez Atelier Georges, à l'agence HDZ ou d'autres agences talentueuses, nos confrères un peu de notre génération. Et donc aujourd'hui, on a des profils architectes et architectes urbanistes qui nous accompagnent. On a une petite équipe de 7 personnes à peu près avec qui on développe les projets.
C'est déjà pas mal pour commencer.
Tout à fait. Oui, c'est en plus quand on parle d'engagement, c'est aussi de finalement tous les jours le partager avec nos collaborateurs et de se questionner et eux-mêmes aussi ils alimentent en fait hein, ce, C'est-à-dire qu'on le fait, nous, à deux, mais c'est bien sûr une histoire collective et c'est exactement ce dont on avait envie.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on aime bien cette idée. Voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu changé l'image de l'architecte un peu star qui raconte que, oui, c'est bien, on représente notre agence, nos engagements, mais aujourd'hui, c'est vraiment... Pour nous, un collectif, une équipe, et notre équipe, elle est précieuse pour construire le projet qu'on va développer. Et c'est vraiment un travail qu'on fait tous ensemble et on est ravis.
Avec une, oui, et ça veut dire un management derrière aussi qui prône le workshop, voilà, ces choses assez importantes. Il y a un point aussi important, c'est que... Le fait, moi je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle les Ateliers de Sergi, et cette manière un peu collective de fabriquer avec des bénévoles, avec voilà, un engagement un peu comme ça, assez ouvert, ça revient en fait dans notre quotidien professionnel. Le fait d'enseigner aussi, donc on est un peu touche à tout, enfin surtout moi, c'est une petite. Ce qui est bien, Anna vient tempérer un peu là aussi ce côté plus calme et moi trop rapide. Donc, on arrive à recaler notre rythme. Mais c'est aussi, je pense, intéressant pour nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on vient, en fait, apporter des expériences d'ailleurs, des rencontres, du pluridisciplinaire, qui est pour nous très important.
Est-ce que vous avez des aspirations pour votre agence et pour vous, pour l'avenir ? Ou même de manière plus large, pour le monde ?
Oui, aujourd'hui, je pense que notre inspiration, c'est arriver à construire une agence qui fonctionne, mais pour avec nos engagements. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est porter des projets qui puissent aller jusqu'au bout et qui puissent tenir les engagements qu'on a. Pour aujourd'hui, la question du bâtiment est clé. Dans la question de construire durablement et aussi construire avec pour réduire l'émission carbone de la planète. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui de l'architecte, c'est vraiment celui-ci. Et je pense qu'on le partage et on veut construire dans cette façon-là. Du coup, il ne faut pas... on n'est pas prête à faire des concessions. Voilà, détenir nos engagements. Je pense que
c'est déjà pas mal.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, on le sait, le bâtiment, c'est une...
Oui, mais par exemple, il y a des tas de débats, notamment sur la ville verticale. J'ai vu passer une critique sur, par exemple, la tour de Brennack et Gonzalez, et c'est certainement pas moi qui vais critiquer leur travail. Bien au contraire, mais en fait, c'est vraiment complexe. Et on sait que les jeunes ont cette bataille et que cette cause planétaire est chevillée au corps pour eux. Mais en même temps, il y a des choses qui ne sont pas réalistes, parce qu'on ne peut pas faire de la toute petite échelle pour loger tout le monde. Donc, on est obligé aussi de trouver des terrains d'entente.
Oui, c'est vrai, mais je pense que là où il y a parfois un peu une erreur, c'est qu'effectivement, c'est des approches un peu dogmatiques, avec un modèle un peu unique. En même temps, ce qu'on sait, c'est que la ville verticale et la ville dense, souvent, en fait, et d'ailleurs, je pense que les jeunes générations, c'est un peu leur critique, c'est que derrière, c'est un modèle financier. Donc, en fait, il y a une densité attendue parce qu'on s'engageait sur des méthodes de réalisation d'espaces publics coûteux, finalement, d'une production coûteuse qui nécessite un effort de production et qui, à la fin, donc, a une réponse biaisée. Et je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand il y a une pluralité des réponses. Et donc, on ne peut pas se dire qu'effectivement, on va tous habiter dans une tour à 50 mètres. Mais par contre, on ne peut pas non plus tous, effectivement, être dans un pavillon. En revanche, je pense que ce qu'on a oublié de traiter, mais c'est autant les politiques que les architectes et architectes urbanistes, c'est l'entre-deux, et c'est notamment les villes intermédiaires. On a tous été séduits par l'hyper-métropolisation et finalement l'attractivité de nombreuses métropoles qui s'est développée. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Et je pense que nous, on s'intéresse aussi à répondre à des appels d'offres qui ne soient pas que sur les métropoles, Donc, par exemple, à Vannes, dans des villes qui ne déposent pas 300 permis de construire par an, ça c'est sûr, mais en même temps, dans lequel il y a une attractivité, il y a en fait.
Et puis une qualité à préserver.
Tout à fait.
Quelque part, un rythme plus lent, mais qui mérite qu'on s'y attarde.
Oui. Oui, et qui peut être. On travaille aussi beaucoup à Marseille, parce que je suis architecte urbaniste conseil de la ville de Marseille. Mais là aussi, Marseille est en plein développement. Il y a en fait une substitution qui est en train de se faire sur des bastides, des villas, et qui sont avec une densification importante de la ville. Mais en fait, si on n'a que le même modèle où on a rempli en gros le gabarit enveloppe permis par le PLU, ça ne sera pas satisfaisant. Et les jeunes générations nous diront, mais quand même, il faut un travail un peu délicat, il faut s'intéresser à la géographie, à l'histoire. Et les habitants, globalement, récemment, quand ils votent, c'est un peu ce qu'ils expriment. C'est comment, en fait, moi, ce que j'aimerais dans le développement de notre agence, c'est comment on redonne des envies. Comment, en fait, on redonne que notre travail il puisse agir sur... je ne dis pas que tout le monde est positif et heureux, hein, ce n'est pas ça. C'est plutôt de se ressentir fier d'habiter dans son territoire, de donner envie de se responsabiliser aussi sur la possibilité de faire des choses aussi ensemble. Et quand on dit qu'on essaye de faire ces marches ou ces danses un peu collectives, c'est aussi un peu ça. On se réapproprie notre territoire et donc après, on est plus tolérance pour accepter des interventions. Pour le fait qu'il y ait des nouveaux voisins. Oui, c'est vrai, il est bien, notre parc. On pourrait peut-être le partager avec 15 habitants en plus.
Donc vous avez une habitude de travailler avec la concertation ?
Oui.
Oui.
Ouais. On
oui,
le sent.
Ouais. On aime bien.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose de plus en plus oui. courant. Même dans des concours, aujourd'hui, on en a eu un récemment à Cachan, dans lequel il y avait un comité citoyen qui est intervenu directement en phase concours pour évaluer le projet. Aujourd'hui, c'est essentiel. Et je trouve que c'est une démarche qui permet de faire accepter le projet et faire comprendre aussi mieux les architectes. Parce que je pense qu'il y a aussi une pédagogie qui est nécessaire à faire, pas seulement vers les citoyennes, mais aussi vers les politiques, je pense, et vers les maires. Aujourd'hui, si on veut construire mieux dans toutes nos villes, c'est nécessaire. Et les écoles, ils y travaillent un peu
dans ce sens. La concertation arrive surtout sur des marchés publics. C'est le...
Tout à fait. Alors, de plus en plus, il y a quand même une
démarche chez les opérateurs privés.
Oui, les opérateurs privés, des fois, par exemple, aujourd'hui, c'est les villes qui l'imposent. Et du coup, par les villes, par exemple, on a une petite opération à Ivry, des logements, et cette opération, il va y avoir une concertation parce que la ville d'Ivry impose cette démarche-là, mais dans un cadre qui est privé.
D'accord.
Voilà, donc... Okay. C'est quelque chose de plus en plus...
Répandu.
Ouais.
C'est bien. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Puisque vous enseignez.
souvent, dans les... Justement, l'idée de s'intéresser à beaucoup plus de choses qu'à l'architecture. Et que ces questions... justement de concertation, mais donc une approche sociologique, des questions d'économie, de modèle financier, de s'intéresser en fait vraiment, de se mettre aussi un peu dans la peau de l'habitant, du promoteur, de mieux comprendre aussi les métiers qui sont autour de l'architecture. Parce que je pense qu'on peut avoir une bonne idée, mais en fait, si on n'a pas la possibilité de bien communiquer sur cette idée, de faire évoluer aussi l'idée, c'est-à-dire écouter, c'est savoir un peu faire évoluer les choses. Et donc, cette question vraiment d'ouverture à 360 degrés sur tout ce qui est connexe à l'architecture, ça me semble assez indispensable en dehors de ce qui est enseigné dans l'école. C'est-à-dire, en fait, il faut faire l'école hors les murs. Et je pense que c'est indispensable d'aller à l'étranger, se confronter à d'autres modèles. À l'étranger, ça peut être vraiment... très proche ou très très loin, mais c'est en tout cas de se réadapter, de s'ouvrir, ça me paraît indispensable pour devenir un architecte à l'écoute et qui a ses convictions, hein, qui défend ses idées, qui croit, qui a des passions, mais en tout cas qui n'est pas tout seul, quoi, parce que cette question d'urgence climatique planétaire et des événements récents plus complexes démontre que vraiment on n'est pas tout seul et que cette interdépendance, elle nécessite de bien la comprendre.
D'autant que la géographie est très importante dans notre équilibre sur Terre et que tout est lié.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est en réseau.
Je voudrais vous poser une question. Je m'interroge beaucoup sur les mobilités, le vélo, toutes les trottinettes, etc. Parce que peut-être moi-même, j'avance un peu dans ma vie et que j'ai une attention assez accrue envers les personnes âgées, etc. Comment vous, en tant que spécialiste du territoire et de la ville, et en plus avec votre expertise du déplacement du corps dans la ville, comment on peut faire vivre ensemble vélo, trottinette, engin bizarre et le piéton et surtout la personne d'un certain âge qui a l'habitude d'aller, par exemple, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui arrive et qui lui fonce dessus. Est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça?
Alors, moi, j'ai une... Alors, pour être un peu pragmatique, entre guillemets, je pense qu'aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec toutes ces nouvelles mobilités, qu'elles envahissent un peu notre ville. Mais je pense que la solution n'est pas forcément la division entre chaque espace. Aujourd'hui, c'est, par exemple, en Hollande, qui sont, je pense, un peu plus avant que nous, vis-à-vis de toutes ces mobilités, parce qu'ils ont toujours utilisé énormément le vélo partout, beaucoup plus que les pays du sud de l'Europe, même si la France, c'est plutôt centre. Mais je pense que je ne suis pas sûre que la réponse, je n'ai pas des réponses toutes faites, mais je ne suis pas sûre que la réponse est celle de créer une piste cyclable, la piste pour le piéton,
de
hiérarchiser. Et aujourd'hui, peut-être, il faudrait...
C'est dans l'éducation,
Il y a une éducation...
Et le savoir-vivre
peut-être, à faire plus vers les habitants et savoir que toutes ces mobilités, petit à petit, vont rentrer. Et aussi, comme ça, aujourd'hui, même la personne qui prend le vélo et aussi la trottinette, il devrait être plus responsable. Parce qu'aujourd'hui, le fait de créer des pistes ou des grands couloirs, on se sent là, tranquille, dans notre espace. Et du coup, on va à toute vitesse sans faire attention aux autres. Et je pense qu'en général, c'est peut-être faire un peu plus attention à l'autre dans tous nos déplacements. Voilà.
Non, mais je pense qu'effectivement, on devrait aujourd'hui inverser la tendance. C'est-à-dire que prendre plutôt... Aujourd'hui, il y a une recherche de performance dans la vitesse, dans l'idée de se déplacer le plus rapidement possible en ville. Alors que peut-être qu'en fait, il faut effectivement prendre celui qui va le plus lentement possible et en fait développer les choses. Aujourd'hui, il y a une sorte de juxtaposition des mobilités possibles. Et on le voit bien, ça, en plus, il y a quelque chose d'assez peu, on va dire, esthétiquement même, toutes ces trottinettes qui sont par terre, qui envahissent un peu les espaces. Et ce qui est sûr, c'est que là, il y a un impensé dans lequel on a le plus fort, entre guillemets, qui va le plus vite et qui domine. Et même les malvoyants, pour qui c'est, à mon avis, très compliqué.
Oui, il y a le handicap aussi.
Voilà, cette question du handicap. Et donc, en fait, de profiter de cette attention-là pour, en fait, repenser les espaces publics. Mais en soi, ça veut dire que tout ça, ça continue. Donc, on n'a pas apporté de réponse aujourd'hui. Il faut en avoir. On commence partiellement, en tout cas sur certains lieux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la question de l'apprentissage aussi dans l'éducation. Mais il y a aussi la réponse de la répartition de l'espace et donc de peut-être inverser un peu la tendance et d'avoir des lieux où on a un peu moins peur de traverser. Mais aujourd'hui, finalement, il y a la place de la voiture qui est aujourd'hui un peu réduite. Mais tout ça se fait un peu par étapes. Ce qui est sûr, c'est que de moins en moins la voiture sera présente en centre-ville. Et donc, il y aura aussi plus d'espace à partager. Aujourd'hui, on essaye juste d'en mettre plus dans le même espace. Oui. Donc,
et puis le cycliste, il a tendance à se dire, bon, super, je suis vertueux, j'ai abandonné ma voiture. Mais finalement, il se comporte exactement comme s'il était Absolument. Dans sa voiture au volant.
Voire pire.
Oui.
Oui.
Et c'est exactement ça. C'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui à gérer parce que voilà, le piéton il a plus, presque des fois plus de place.
Ouais. Bon, il y a encore plein de choses à faire et à ouais. penser Tant et mieux. À imaginer. Bon, un mot de la fin?
Non, peut-être le mot de la fin, ça serait sur, je pense, le besoin pour les architectes de collaborer encore plus entre eux. Je pense qu'il y a un vrai besoin de se soutenir les uns les autres, de s'écouter, de s'intéresser aussi, de faire des efforts pour être dans quelque chose qui, à mon avis, dans notre génération, quand on parlait des attentions aussi, ce qu'on voit, c'est que les plus jeunes montent des collectifs. Ils ne montent pas une agence avec un nom. Et donc, je pense que nous, on est un peu entre deux dans la génération. Et je pense que ça, c'est un point important parce que quand on veut mener des combats qui sont sur les matériaux, qui sont sur des bons logements, qui sont sur énormément de thèmes, on en parlait, la mobilité, etc. En fait, on ne va pas bien les mener si on est tout seul dans nos coins. Mmh. Et donc, je pense que ça, c'est important qu'on puisse vraiment se mobiliser ensemble sans forcément avoir besoin de briller ou de prendre de la place, mais... On sera d'autant plus fort si on joue collectif, en fait, en équipe. Quoi. Je ne vais pas faire de lien avec le monde du foot, mais en gros, je pense que ça, c'est vraiment un point assez essentiel dans lequel je pense qu'on a besoin d'être.
Oui, de partager plus, on peut dire, ce qu'on a, tout ça ensemble.
Ce sera le mot de la fin, le partage. Merci beaucoup d'être venu témoigner dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas l'anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Merci pour cette invitation.
Merci beaucoup et à bientôt.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.